Les Cascodeurs Podcast, épisode 77. Google par-ci, Google par-là. Enregistré le 12 avril 2013.
À l'épisode 77 des Cascodeurs. On est le 12 avril 2013. J'ai vu le premier rayon de soleil de l'année.
Comment il pleuvait quand même,
voilà, il pleut toujours, c'est toujours la merde en France. Mais voilà.
Dimanche, il fera
beau. Mais ce week-end, il devrait faire beau.
Dimanche, ouais.
Ouais. Donc c'est bien.
Oui.
C'est Miss Météo qui le dit.
Ouais.
Oui.
Laquelle celle de quelle chaîne? Alors, on va se dépêcher parce qu'on a plein de trucs à dire. Juste des petites infos. Si vous avez des problèmes pour accéder au site web des Cascodeurs ou au podcast, dites-moi quel fournisseur d'accès vous avez. Vous pouvez faire ça par Twitter sur @lescascodeurs ou un petit email aux adresses habituelles ou sur le groupe. J'aimerais savoir si c'est complètement réglé ça ou si ça arrive encore chez un certain nombre de gens. On a eu un problème pendant un moment. Une des solutions, c'est d'aller chez quelqu'un qui a pas free ou d'utiliser votre téléphone portable ou un truc comme ça.
Ah, mais il a pas tout compris, alors.
Il a pas tout compris. Ou les VPN, si vous avez une boîte à VPN. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, on a des différentes sous-sections dans les news. Donc, on va commencer par les langages. Et puis, Java 8, ça se rapproche. Et donc, c'est Guillaume qui avait...
Ouais, c'est moi qui ai rajouté ça. Dans les show notes, je vous ai mis deux petits liens. Alors, il y a la liste officielle des JEP. Je ne sais pas comment ils prononcent ça. Moi, je dis ça à JEP, un peu comme une Jeep. C'est la liste de tous les... je crois que ça veut dire Java Extension Proposal, si je ne dis pas de bêtises. Et qui liste, en fait, toutes les nouvelles fonctionnalités du JDK 8 et de Java 8. Donc, tout ce qui est Lambda, tout ce qui est, par exemple, l'inclusion du moteur JavaScript Nashorn, les types sur les annotations, etc., les méthodes par défaut. Donc là, on a vraiment la liste complète des grandes fonctionnalités, donc aussi bien langage que JDK API, date and time, derivative data time et tout ça. Et il y a aussi un deuxième lien qui est pas mal du tout, sur le site Tech Empower, qui est en fait une sorte de tutoriel un petit peu qui couvre toutes les nouveautés, alors peut-être pas toutes au niveau des API, etc., mais qui couvre les éléments clés, surtout côté langage, donc les méthodes par défaut, les interfaces fonctionnelles qu'on pourrait utiliser là, pour faire les SAM type pour les lambda. Il y a vraiment pas mal de choses, et c'est un bon... Si vous voulez commencer quelque part, je dirais, pour savoir un peu qu'est-ce qui va être utilisé dans Java 8 et JDK 8. Je trouve que c'est un bon départ.
D'accord.
Et c'est assez riche, en fait. Il y a pas mal de nouveautés.
Et c'est assez riche. Il y a pas mal de nouveautés. C'est prometteur, je dirais, comme version de Java. Et
Java 7, il n'y avait pas grand-chose.
Non. Bah ouais.
Non. Et en regardant les nouveautés, je me suis dit, y a du boulot pour nous quand même. Il va falloir apprendre à faire beaucoup de choses parce qu'il y a des moyens beaucoup plus simples de faire les choses maintenant.
Ouais, coup, déjà, il faut que je me mette au JDK 5. Alors...
c'est ça.
Je vais passer au 8 direct.
Ah, de toute façon, les langages avec des machines virtuelles, ça ne marchera jamais. En parlant de ça, d'ailleurs, il y a une boîte qui a fait une migration, de leur nouveau morceau de code sur Dart au lieu de JavaScript. Donc, on va pas passer trop de temps. Ils font un retour là-dessus. Ce qui était un peu bizarre, c'est qu'en gros, ils disent JavaScript, c'est super. Il y a effectivement des trucs un peu bizarres, etc. Mais ce qui est vraiment problématique, c'est cette explosion de framework et les problèmes de compatibilité les uns avec les autres.
C'est pas comme si on avait connu ça dans le monde Java il y a quelques années.
Voilà. Mais cela dit, les problèmes de compatibilité, on en a toujours un peu moins que... Puis on les voit plus tôt, quoi.
Ouais.
Non, mais... Voilà, se compiler tout ça, quoi. Et donc, ils sont partis sur Dart en se disant, de toute façon, il y a déjà des trucs pré-inclus, notamment, je crois que c'est peut-être pour les tests, des choses comme ça. Les librairies standards, les namespaces, où il y a les tests, packaging, etc. Et du coup, ils disent, au moins, il y a une seule façon de faire. En plus, la VM est super rapide, donc c'est trop cool. Et Dart, vous rappelez, ça compile en JavaScript, donc ils peuvent quand même déployer leur code et faire du pognon. Voilà, bon, moi je suis un peu sceptique, mais c'est intéressant de voir leur retour d'expérience et pourquoi ils sont partis là-dessus.
Mais c'est vrai que c'est marrant parce que le choix, c'est à la fois bien et c'est à la fois un problème parce qu'il faut justement faire un choix. Donc c'est vrai que c'est une plateforme en elle-même, mais après je pense qu'ils auront à faire d'autres choix malgré tout. Et par exemple, s'ils veulent mettre, je sais pas, du Angular au-dessus, ou voilà, il y aura peut-être quand même des choix à faire.
Ouais, d'Angular, on va appeler ça.
D'Angular.
D'Angular. Sinon, il y a Sacha Labouret, que le CEO de CloudBees, qui a écrit un article sur, enfin, qui a levé le drapeau en disant attention, attention, il y a les grands du soft, notamment, je crois, Oracle, Apple et Microsoft, qui sont en train de pétitionner la Cour de justice, en gros, américaine sur un procès donné. Pour leur dire non, il faut pas que les API soient non copyrightables parce que voilà, ça sera contre l'innovation et le pognon et tout ça. Et Sacha dit et ça vient du procès entre Google et Oracle, parce que le juge a dit en gros non, les API Java c'est pas copyrightable, donc on peut les prendre, les copier dans le code et après les implémenter différemment, d'accord. Et donc Sacha a fait un article, je vais pas essayer de le résumer, mais en tout cas il pointe sur un monde où on va aller de plus en plus vers des services et vers du cloud. Et donc si les API sont copyrightables, ça veut dire que une fois que vous implémentez votre code qui va utiliser ces API, personne d'autre en gros va pouvoir implémenter une version alternative de ces API. Donc si vous imaginez Amazon EC2 avec les API standard de fait et des gens comme Rackspace qui essaient de les implémenter avec des adaptateurs pour que leurs clients puissent passer d'une plateforme à l'autre, ça sera potentiellement illégal. Voilà, donc c'est là-dessus qu'il a pointé. Ça pose aussi des problèmes au niveau potentiellement open source, toutes les réimplémentations qu'on a envie de faire ou des alternatives, ça poserait problème. Vous avez des réflexions là-dessus, vous ?
Comment ça se passe, en fait, par exemple, quand tu as l'API Servlet, et du coup, quelqu'un qui crée son serveur d'application, qui code contre ces API-là pour proposer l'implémentation, comment ça fonctionne, justement, dans le cas où on imaginerait que l'API est copyrightée ? Faut demander un droit,
Voilà, tu vas demander une licence à Oracle pour pouvoir implémenter ces API.
Ouais,
donc et puis ton API, tu vas pas le code, tu vas pas le mettre en ASL du coup, parce que à moins qu'Oracle soit OK là-dessus.
Quoi. Ouais, bien sûr. Donc c'est quand même assez grave.
C'est super contraignant. Un JT
ou un truc. Ça casse l'open source en fait. Ça casse l'open source.
C'est un retour en arrière hallucinant. Ouais. Ça a toujours été un peu flou parce que c'est.
Mais c'est le contraire, puisque le but de ces API, c'était bien justement d'avoir un écosystème riche d'implémentation avec qu'on puisse passer de l'un à l'autre. C'était...
Oui, mais tu sais, eux, ils veulent bien un écosystème.
Ouais, bien sûr.
L'écosystème, non, mais je dis juste que ça. Licence,
ça.
Voilà, tu vois.
Je dis juste que globalement, ça casse l'idée originale.
Donc voilà, attention, je sais pas ce qu'on peut faire nous concrètement, ne serait-ce qu'en parler et d'essayer de se sensibiliser sur le sujet, mais c'est un sujet qui pourra nous influencer énormément dans le futur.
On va faire une manif.
On va aller sur change.org. Et on va
des API pour tous.
Voilà. Les drapeaux.
Rose.
Ah là là. Sinon, il y a un nouveau langage qui s'appelle Golo.
Golo.
Qui est français, voilà. Qui a été fait par Julien Ponge et d'autres de son labo. Déjà, il a déjà sorti une version 1.1, on n'a pas eu le temps de dire qu'un 0 était sorti. Je me rappelle plus, il a fait des petites améliorations avec du retour sur ses premiers utilisateurs. Et puis aussi, il a parlé de
PIMP.
Comment il a démarré le projet. Il y a ça aussi. Voilà. Comment il a démarré le projet, pourquoi il l'a fait et pourquoi il a démarré en secret, entre guillemets. Et c'est vrai que pour les langages, je sais pas Groovy si vous avez été ouvert dès le jour zéro ou s'il y a eu quand même un ou deux mois pour essayer de...
Si, il y a eu quand même, il y a eu effectivement quelques mois le temps de builder une première version, quoi, de montrer quelque chose. Parce que tu peux pas démarrer.
Non, mais James et Bob, ils s'étaient vus, non? Ils s'étaient pas vus?
Ouais, ils ont travaillé ensemble. Enfin, ils se sont vus et rencontrés une fois, mais je pense que l'implémentation, attends, je sais plus si ça avait été, s'ils se sont rencontrés d'abord, ils ont codé ensuite, ils l'ont annoncé, ou vice versa, s'ils se sont rencontrés lors de la fameuse house party, peut-être bien une des seules et uniques d'ailleurs, Et que c'est à ce moment-là qu'ils l'ont annoncé. Je ne sais plus exactement dans quel ordre, mais en tout cas, clairement, malgré tout, il y a eu une partie, avant que les sources soient disponibles et réellement annoncées publiquement, il a fallu quand même coder une première version, quoi, ouais. Même si elle était parce toute que, buggée de partout ouais. Et tout ça.
Parce que particulièrement pour un langage, si t'écris pas le corps avec une philosophie donnée, après ça part vraiment live avec des gens qui disent oh, c'est encore en du vaporware, etc. Ouais. Donc tu peux facilement avoir des retours vachement négatifs et tuer ton langage alors que t'as pas commencé, quoi.
Parce que l'état d'esprit de Groovy est le même depuis le début, je dirais, à 80% ou 70%, c'est difficile de donner un pourcentage. Donc faut donner quand même un axe, une philosophie à ton projet, quoi.
Ouais. Voilà, sinon il y a Ceylon, la Milestone 5 qui est sortie en mi-mars. Il y a notamment les génériques réifiés, si je me souviens bien. En gros, il y a tous, des tuples, interopérabilité avec les API JavaScript natives, un serveur HTTP, le module de date et heure, date and time. Et en gros, ce qui reste, c'est les annotations, les mix-in et un autre truc. Et après, on passera en 1.0. Voilà.
Cool.
Sinon, cool. Dans quel sens? Parce que maintenant, c'est tendu. Sinon, il y a, donc, vous rappelez, le Java 6, c'est sorti de sa période de support et de continuation même des patchs de sécurité, etc. Et Red Hat a dit qu'il allait continuer à supporter OpenJDK 6 pendant un certain temps. Donc, bon, je devrais pas le dire, mais personnellement, je trouve qu'ils ont fait beaucoup de bruit pour ce que c'est. Mais cela dit, c'est intéressant de dire, il y a une boîte qui peut continuer grâce au fait que le JDK 6 maintenant c'est en open source via OpenJDK 6. Une boîte peut continuer à dire, on va supporter nos clients qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas passer à la version 7. Voilà. Vous avez du feedback là-dessus ou pas?
Bah, c'est bien.
Moi, je suis passé au JDK 7.
Parce que je sais pas si c'est support Windows ou ça, tout ça.
Ouh.
Par contre.
Ouais, faut voir dans les faits ce qui va se passer. Mais,
Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes et de besoins encore ou pas?
Mais le fait que c'est open source, que Java est open source et que ça permet de faire ça, c'est bien. C'est ça.
De toute façon, c'est critique pour Linux aujourd'hui, l'OpenJDK.
Ouais.
Mais bon, après, c'est clair que nous on est encore en 6 et je pense qu'on le sera encore pendant un certain temps.
Idem.
Ouais.
Comme j'ai déjà dit d'ailleurs, on attend, c'est JBoss qui nous pousse XWiki, parce que c'est JBoss qui est souvent précurseur dans ses librairies pour bouger dans les nouvelles versions du JDK, et comme on veut les nouvelles versions, on se trouve bloqué et on upgrade nous aussi dans la foulée en général.
Ouais. Groovy tourne encore très bien sur le JDK 5.
C'est bien.
Il tourne, mais il y a des bugs de sécurité, tu te rends pas compte.
Non, même pas, non, ça marche bien. Enfin, pas de la faute de Groovy en tout cas.
Ouais. En parlant de Groovy, donc il y a eu une interview de Zero Turnaround.
Ouais. Donc les petits gars de qui font donc JRebel, LiveRebel et tout ça. Et donc ils nous ont interviewé, donc mes petits collègues et moi, donc mon collègue allemand Jochen, mon collègue Cédric de Nantes, Andres, ils nous ont posé plein de questions. Et ils ont agrégé tout ça dans une interview qui est assez longue à lire, mais qui est assez intéressante. Donc, on revient un petit peu sur l'histoire. Qu'est-ce que Groovy? Est-ce qu'on ferait les choses différemment si on recommençait aujourd'hui? Comment on gère, par exemple, la gestion des nuls par rapport à d'autres langages? Où on parle aussi des langages statiquement typés, que Groovy supporte également. Il y a pas mal de choses assez intéressant, donc si vous voulez savoir un petit peu ce qu'on a fait sur Groovy et comment les choses évoluent, l'interopérabilité, tout ça, c'est une bonne interview.
D'accord.
Bonne lecture.
Voilà, sinon on va passer aux plateformes et aux frameworks. Alors il y a, pour les gens qui sont dans l'univers Spring, il y a, comment il s'appelle ce monsieur?
Adrien Collier.
Ouais. C'est quoi maintenant? C'est le CTO Spring, c'est ça?
C'est le CTO Spring Source, mais c'est toujours le CTO Spring Source depuis un moment.
D'accord. Et voilà, donc il explique il explique que Spring c'est bien dans le spin-off pivotal là, et puis surtout il explique ce que vous voulez faire d'ici un ou deux ans, quoi.
Ouais, exactement. Parce que bon, c'est vrai que quand on regarde un petit peu les annonces autour de Pivotal, on parle surtout de Big Data qui est un sujet à la mode, mais la partie, je dirais, applicative est toujours très importante, et Spring Source et tous les produits, projets qui en découlent, donc Spring, Groovy, Grails, Cloud Foundry, etc., ont un rôle très important à jouer dans cette nouvelle vision de l'entreprise de demain. Et donc, il nous fait un petit retour sur tout ça, qui est assez intéressant également à lire.
Voilà. Sinon, il y a, pour les gens qui sont intéressés à les interfaces utilisateurs, etc., qui veulent essayer JavaFX, IntelliJ a construit le support JavaFX, la capacité à faire du packaging des applications JavaFX dans IntelliJ. C'est sorti avec la version 12.1. Voilà. Qui continue à faire des releases régulièrement d'ailleurs là. Donc voilà, ouais. bonne IDE.
Ouais. Hier il y en a une, 12.1.1.
12.1.1, ouais.
Alors, est-ce que vous êtes à jour?
Ouais.
Mettre à jour, et en plus t'étais pas obligé de le télécharger à la main, de l'installer à la main celle-là.
Ouais, il y avait le patch qui marchait.
Il y avait le patch automatique.
Mais apparemment il y avait quelques petits soucis sous Linux, pour ceux qui sont sous Linux, par rapport à des histoires de file sync et tout ça. J'avais mon collègue Cédric qui avait quelques petits soucis. Donc attention éventuellement si vous êtes sous Linux, je ne sais pas s'ils ont été corrigés dans la toute dernière version.
À voir. En tout cas, si vous êtes sur Linux, ça va.
Voilà. Sous Mac.
Sinon, il y a des articles sur l'approche callback versus l'approche promesse. Alors, ça va être difficile à résumer, mais c'est celui qui dit qui y est, donc Guillaume, vas-y.
Alors, quand on fait, par exemple, du Node.js, ou même quand on fait du jQuery, et qu'il y a un petit peu d'asynchrone, on attend le retour d'un appel, on va dire, donc on a tendance à imbriquer les callbacks. Donc, en Node.js, pour faire 3-4 trucs enchaînés, vous allez avoir 3-4 closures imbriquées les unes dans les autres. Et en fait, ça fait un espèce de code de spaghetti callback qui n'est pas forcément très très élégant. Et en fait, on parle de plus en plus de promises en anglais, qui est une manière de faire des callbacks, mais de manière déjà plus élégante, je dirais presque plus impérative, et qui évite l'aspect super imbriqué. Donc en fait, c'est... comme les futures, si vous voulez, mais avec une sorte de méthode zen qui dit que quand la valeur est arrivée, je fais quelque chose avec une nouvelle fonction. On n'imbrique pas les closures, les fonctions, les lambdas, ou peu importe, suivant le langage que vous utilisez, mais en fait, on les chaîne en quelque sorte. Et donc, on laisse plutôt au framework la capacité à gérer cette imbrication naturelle du côté asynchrone, plutôt que de le faire explicitement en imbriquant soi-même tous ces callbacks ensemble. Donc il y a ces deux articles qu'on met dans les liens là, qui sont très très intéressants, un petit peu longs à lire, mais qui expliquent bien la différence entre callback et promesse. Et on voit beaucoup de choses autour des promesses, ou par exemple tout ce qui est reactive programming. Là, j'ai pas mis de lien sur ça. Il y a des nouveaux frameworks comme Reactive Java, Reactive JS, etc., qui sont un petit peu basés sur ces choses-là. Et c'est aussi un parallèle avec le monde des acteurs aussi, qu'on peut retrouver dans JPerse, dans Akka, etc., ou dans Erlang. Donc une bonne lecture pour comprendre ces problématiques de programmation fonctionnelle à base d'asynchrone dans tous les sens.
D'accord. Alors on va vous parler du sponsor de l'épisode, une boîte qui s'appelle Masternode. Je vais vous expliquer ce qu'elle fait après, c'est assez intéressant d'ailleurs. Alors eux, ils cherchent un développeur Java, donc jusqu'ici tout va bien, passionné, qui s'intéresse, qui touche aux nouvelles choses, nouvelles techno, nouvelles pratiques, et qui aime bien les challenges. Alors eux, alors ça serait pour un poste côté back office. Donc typiquement, ils ont une appli avec des API REST qui sont consommées par d'autres parties de leur système d'information. Donc aujourd'hui, elle est construite autour de Spring, de CXF, MySQL, etc. Je crois qu'il y a du Hibernate et du Groovy aussi.
Cool.
Mais bon, après, ouais. Mais bon, après, ils s'arrêtent pas à ça. Donc, s'il y a un besoin et un besoin de nouvelles techno, voilà, ils rajoutent les choses. C'est pas rigide. Notamment en ce moment, ils sont en train de tester, d'expérimenter sur Elasticsearch, Redis, MongoDB pour voir, voilà, le futur en termes de scalabilité et de fonctionnalités. Donc leur équipe, c'est pas une grosse équipe, c'est 4-5 développeurs Java, donc vous feriez partie de cette partie-là, 2 développeurs .NET / jQuery, c'est la partie front-end, un mec qui fait le lien entre la prod et les devs, et ensuite il y a une équipe de QA / testeurs qui font du Selenium, etc., comme on connaît, mais aussi l'intégration, les tests d'intégration avec les boîtiers hardware. Donc c'est là où la boîte elle est assez intéressante. Un petit point particulier, faut idéalement un niveau correct d'anglais puisqu'il y a une partie de l'équipe qui est en Angleterre avec un accent un peu chaud apparemment au début à comprendre. Et si vous connaissez, si vraiment vous êtes pas bon en anglais, ça va vous handicaper en termes d'interaction avec le reste de l'équipe. Voilà. Sinon ils sont en organisation agile, ils utilisent Kanban. Ils essayent de pas faire trop de trucs en parallèle pour que vous soyez focalisé sur la tâche. Et puis rapidement, ils font des dojos. D'ailleurs, Yoon est responsable du Java User Group de Normandie. Ils font du pair programming à temps partiel. La boîte paye pour une conf une fois par an au moins, donc Devox, Paris Web ou d'autres confs, vous pouvez. Et puis il y a moyen de faire un ou deux jours de télétravail dans la semaine. Voilà, donc la boîte, qu'est-ce qu'elle fait ? Celle-là, je trouvais ça particulièrement intéressant, c'est qu'ils font des boîtiers qui vont dans des véhicules avec une antenne GPS, machin de capter le signal, etc. Et ils relèvent la consommation, la vitesse, la température, et ces choses comme ça. Ce qui permet d'après faire des rapports sur la flotte de véhicules. Optimiser les routes.
Ou qu'a une petite vessie,
Petite vessie, ou qui va trop vite, ou qui consomme trop. Voilà, ils font des tableaux de bord intéressants pour ces gens-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas l'appli web à papa, maman, etc. C'est, ils reçoivent littéralement le flux des boîtiers octet par octet, et ils font du coup l'analyse hyper, enfin le processing hyper bas niveau. Il y a pas mal de traitements événementiels, des petits codes comme ça. Donc eux, ils sont à Louviers, donc à 20 minutes de Rouen au sud, à peu près une heure de Paris. Et donc évidemment, c'est la vie, pour nous les Parisiens, c'est vie sans bouchon, vous pouvez aller faire du sport le midi, bref, beaucoup moins de stress. Et il ne pleut pas tout le temps en Normandie.
Ah bon ?
Récemment, il a pas mal neigé par exemple. Non, mais bon, apparemment, c'est assez cool là-bas. Donc, qu'est-ce qu'ils recherchent en profil ? Donc, un javaïste, hein, plutôt back-end, mais surtout passionné, qui a envie de chercher des choses. Si vous connaissez Hibernate, apparemment, c'est un plus. Le salaire, c'est entre 30 et 40K, selon votre niveau de connaissance. Et ça sera évalué par du pair programming. Donc, c'est pas votre CV à la base, c'est vraiment le pair programming qui va définir un peu où vous en êtes. Pour info, donc ça peut paraître faible pour des gens de la région parisienne, mais la moyenne dans leur région, pour un mec bien qualifié, c'est 35K à peu près, donc il paye un peu plus que dans la région. Si vous êtes bon en ping-pong, vous avez aussi un plus. Donc si vous connaissez Hibernate et le ping-pong, vous allez pouvoir vous faire embaucher. En gros, enfin, j'ai un peu résumé leur truc, mais coder, c'est prouvé. Donc, venez avec votre code. Si vous avez un compte GitHub, encore mieux. Sinon, une clé USB, etc. Parce que ils veulent pouvoir discuter autour de votre code, de voir comment vous travaillez, etc., etc. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur l'Express Board. Il y a l'annonce, donc, de Masternaute, M-A-S-T-E-R-N-A-U-T. Et puis, sinon, évidemment, on mettra un lien dans les show notes. Voilà.
Bon, ben, bon, l'épisode est fini.
J'ai essayé de rester un peu. On s'adapte encore au niveau des longueurs, mais voilà.
C'était 2 minutes. De bonnes minutes. Puis il nous faut un jingle.
Si avec ça, on n'a pas des sponsors à chaque fois, je sais pas ce qui se passe.
Non, mais en tout cas, merci à eux de l'aide.
Merci, sponsor.
Voilà. Donc on va parler un peu de côté infrastructure. Il y a, vous vous rappelez Google Cloud Compute, c'est quel était l'équivalent de Amazon Web Services mais côté Google. Et vous parlez des, vous vous rappelez des packages qu'on pouvait acheter chez Google, Gold Package, etc. Et donc maintenant ils ont ouvert le Google Cloud Compute chez tout le monde si vous avez le package Gold. Voilà. Et ils ont fait aussi d'autres choses, mais ça c'était un peu la news particulière. Moi, j'ai pas essayé. Vous avez essayé, vous avez expérimenté.
En fait, jusqu'à présent, on pouvait pas Google Cloud Compute parce qu'il faut vraiment avoir des gros besoins et pour y avoir accès. Donc, moi, j'avais fait la demande comme ça pour tester en bêta, mais
pour Gaelic, faut bien une ferme, non?
Mais effectivement, non, c'est vraiment pour faire des choses assez costauds, quoi, avec beaucoup de nœuds, etc. Et je sais plus si on l'avait mentionné à l'épisode précédent ou pas. Et du coup, sinon, si on l'a pas fait, faudrait que je rajoute un lien. Il y avait un article paru là il y a pas très longtemps, faut que je le retrouve, qui comparait en fait les performances de Google Cloud Compute avec EC2, Amazon EC2. Et qui montrait vraiment que la performance de Google Cloud Compute était vraiment très 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 impressionnante au niveau rapidité, bande passante, stabilité, etc.
AWS, il y a quand même des variations assez importantes en termes de perf, d'un moment à l'autre et d'une VM à l'autre.
Ouais.
Alors que Google Cloud Compute, apparemment, c'est quand même beaucoup plus.
Bon, malgré tout, c'est tout neuf aussi. Alors, on ne sait pas. Ouais, peut-être que leur cloud n'est pas encore surutilisé non plus.
Exactement.
Parce que même quand on prend des instances larges chez Amazon, il y a encore un autre article que j'ai lu il y a deux trois jours où il comparait avec un vieux serveur AMD, je ne sais plus trop quoi. En hosté chez un fournisseur du coin, et il montrait que même une instance super large, en fait, c'était super pas performant du tout sur Amazon par rapport à un bon vieux serveur des familles, quoi.
Ouais.
Donc faut voir ce qu'on veut faire sur le cloud, si c'est quelque chose qui a besoin de performance très très pointue de calcul, peut-être qu'un mix de Google Cloud Compute avec autre chose peut le faire, par exemple.
Ouais, mais ça, on est encore dans le moment intermédiaire où il n'y a pas forcément un modèle qui gagne forcément par rapport à l'autre, ou même peut-être que ça sera jamais le cas, qu'il y aura effectivement un mix de ton hébergeur classique avec ta capacité à faire des pointes ou du process spécialisé sur du cloud.
Exactement. Je pense qu'il y aura tu sais, il y a toujours des tonnes de besoins différents suivant les applis, les entreprises, etc. Et donc, je pense qu'il y a de la place pour différents types type d'acteur et type d'offre, quoi.
Ouais. Bon, après, quand on a un serveur physique, voilà, quand il tombe en panne, il faut redemander un nouveau serveur, c'est
pas
le
même
long,
temps.
Quoi.
On parle pas de minutes, on parle d'heures et de journées.
Ouais. Bon, après, il tombe un peu moins. Voilà, sinon, on va zoomer un petit peu sur le web. Alors, il y a des gens qui s'appellent Tech Empower qui ont fait une comparaison.
C'était intéressant. Et en te coupant, c'est les mêmes qui ont fait le tutoriel Java 8, justement.
Ah, d'accord. Bon, bah, c'est bien. Alors, il faut s'enregistrer. Ah, ben, bah, oui. Bon, ils ont fait 4 posts. Il y en a 2 bien. 50% de succès. Non, 5 posts. Alors, leur framework, il est biaisé. On va en parler un petit peu. Enfin, biaisé. Il est très simple, on va en parler un petit peu après. Ils disent pas on est les meilleurs du monde, etc. Mais ils ont essayé de comparer les performances de plein de frameworks différents, plein de langages différents. Donc en Netty en premier, Servlet, celui de Vertex, Gemini que je connais pas, le langage Go. Là on est déjà Netty étant 100%, Servlet 78% en termes de perf, Vertex 76%. On passe à Go, on est déjà à 36, Node.js 28, Wicked 23, Play 14.
Tu vas tous les faire?
Grail 5, non, j'en sélectionne un certain nombre. intéressant. Django 3, PHP, je m'en rappelle plus. Ouais, c'était 5, non, c'était pas 5, c'était 13. Voilà, Sinatra de Ruby avec JRuby 1,9. Donc, il montrait des taux de... Je me rappelle pas exactement ce qu'il testait, mais c'était sérialiser du JSON et le re-rendre ou un truc dans ce goût-là.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la fonction plus ou moins native du framework qui fait de la sérialisation JSON et de voir ce que ça donne. Et là, tu regardais le premier article, mais il y avait la mise à jour aussi de l'article avec des performances qui ont été un petit peu mises à jour.
D'accord.
Et où effectivement, donc ça varie enfin, du simple au, à un facteur 10 ou 100 de différence 100, ouais. au niveau performance. Donc il y a ce test-là, il y a aussi l'autre test qui est sur un accès base de données, comment récupérer, je ne sais plus si c'est 100 entités dans la base de données. Ça, c'est les deux gros tests qu'ils ont fait. Ouais. Mais je
sur
dirais.
Sur hardware dédié et sur EC2 aussi, c'était un autre truc intéressant.
Ouais, c'est vrai. Et après, le problème, je dirais, malgré tout, c'est le problème de tout, comparaison, micro, benchmark, etc. C'est que, voilà, c'est pas forcément. Enfin, chaque framework ne fait pas forcément la même chose. Donc, même si on a, je dirais, un besoin donné, c'est-à-dire sérialiser du JSON. Aller récupérer 100 entités dans la base de données, chacun a une manière éventuellement différente de faire. Et ouais. du coup, c'est pas forcément la manière idiomatique dans le framework donné, et ouais. c'est pas forcément comme ça que tu l'aurais codé, sinon... donc bon. Ouais. Apprendre avec des pincettes, et comme toujours avec tout micro benchmark, vérifier ce que ça donne pour vous, pour votre cas d'utilisation, quoi.
Ce qui était intéressant quand même, c'est que ça, tu vois, on parlait de servlets, c'est vieux, gna 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 gna. Ensuite, on a des nouvelles approches de type NIO à la Vertex, à la Netty, etc., ouais. etc. On a Node.js qui est plus performant que machin, qui est moins performant que truc, etc. Et quand on regarde finalement, leur code reste simplissime, etc. Mais servlets sort vachement bien du lot. Node.js c'est quand même pas forcément en superposition par rapport aux gros contenders, etc., etc. Donc ça,
et tous les Ruby, Rails et tout ça sont vraiment bas, quoi. Ce qui est un petit peu étonnant. Enfin, je pensais pas que ce serait aussi bas, quoi.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Mais en tout cas,
sur JRuby, en fait.
Ouais, ouais. Et ce qui était bien aussi, c'est que ils donnent accès à un repository GitHub. Donc les projets pouvaient aussi, c'est pour ça qu'ils ont fait un autre article avec une mise à jour. Certains projets ont proposé quelques mises à jour pour améliorer justement la performance.
Ouais.
Donc ça donne une bonne idée malgré tout, et on peut contredire ce qui a été fait pour proposer une amélioration et coder les choses de manière plus optimale. Ouais. Quoi.
C'est le côté sympa, ils sont restés humbles, du coup.
Exactement.
Ça s'est pas transformé en pugilat, même s'il y a eu un petit les Node.js qui sont un peu énervés, mais voilà. Donc ça, c'était pour la comparaison de web. Sinon, alors on va parler de Google pas mal là dans les prochaines minutes. Alors déjà, il y a Google qui a décidé de forquer WebKit. WebKit qui est à la base de pas mal de navigateurs web, hein, donc Chrome, Safari mobile, Opera, j'allais dire, mais non, on va en parler après, etc., etc. Mais bon, bref.
Tu fais un clin d'œil à Google, si je puis dire.
Et donc,
vu que le fork s'appelle Blink.
Voilà. Alors, il y a plusieurs raisons apparemment pour lesquelles ils ont fait le fork, mais c'est vrai qu'Apple gardait un contrôle un peu important sur le projet open source WebKit, et que Chrome voulait, l'équipe Chrome voulait faire des choses un peu plus intéressantes, notamment en termes de séparation de containers pour faire tourner les différents morceaux de JavaScript, etc. Et du coup, ils ont dit, bon, bah, là, on n'y arrive plus. De toute façon, on faisait 50% de la contribution à WebKit. Donc, on fork, on fait un truc qui s'appelle Blink, qui est au départ WebKit. Et puis après, on va le faire évoluer. On a un certain nombre de choses qu'on veut faire dessus. Alors, ça a été très, y a des gens contents et des gens pas contents du tout, quoi, sur ce fork-là.
C'est bizarre parce que un des arguments, donc, c'est le fait, ça va faire encore plus de fragmentation, alors que justement, ouais. quand qui c'est qui a annoncé Opera, qui a annoncé qu'il arrêtait son propre moteur pour utiliser WebKit, maintenant ouais. Blink, là on a dit mais c'est dommage parce que justement ça va éviter, voilà, il y en a un de moins. Alors c'est bien qu'il y en ait un de moins, mais c'est pas bien qu'il y en ait un de plus, et vice versa, c'est pas bien qu'il y en ait, enfin bref, vous avez compris. Donc suivant les avis, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien?
Donc il y a, si vous voulez vous marrer en plus avec une vision très cynique du truc, il y a une FAQ d'un gars qui a pris la FAQ originale et qui a répondu de
Sans
manière
bullshit.
Politiquement incorrecte, voilà. Le truc du genre pourquoi est-ce que vous faites un nouveau moteur parce que non, alors, pardon, excusez-moi.
Qu'est-ce que vous devriez attendre de, voilà, du fork? Rien pour l'instant, c'est juste politique. C'est pas technique.
Est-ce que ça va fragmenter le web?
Oui,
mais on espère une dominance totale. Donc, de toute façon, vous allez coder pour notre truc. Voilà.
Et puis, il y a aussi le côté récursif, c'est-à-dire telle question, revoir .1.4 de la question. Et du coup, tu tournes un peu en boucle quand tu regardes la FAQ. C'est assez rigolo.
Ouais. Bon, voilà. Du coup, Chromium va avoir un moteur différent de Safari. Donc, en termes de développement web, va falloir commencer à suivre les différences entre de rendering entre Chrome, Safari, etc.
Ouais, génial,
Une toute petite remarque quand même malgré tout. Donc, WebKit, c'est le moteur, mais il y a pas mal de choses, de modules au-dessus qui font certaines choses. Par exemple, le rendering des fontes, des polices de caractère, le rendu des polices de caractère, c'est pas quelque chose qui fait partie du moteur. Donc en fait, il y a déjà des différenciations qui font que même si on utilise le même WebKit entre Chrome et Safari, le rendu exact n'est pas forcément le même. Certains calculs de CSS, etc., sont déjà pas faits non plus par le moteur de base. Donc,
accélération hardware, etc.,
c'est encore pas fait par WebKit.
Voilà.
Donc, c'est un autre moteur, mais malgré tout, c'était pas non plus le même rendu dans chaque navigateur de toute façon.
Il y avait un blog intéressant là-dessus en disant, mais qu'est-ce que fait WebKit et qu'est-ce qu'il ne fait pas? Et en fait, la réponse, c'est que c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que WebKit, finalement, c'est pas une si grande part que ça du moteur. Ouais, ça le rend, mais par contre, on fait des trucs un peu différents au niveau du DOM et du machin. Alors, c'est pas vraiment 100% le même. Et à tous les niveaux, il y a un oui, mais.
Et la réponse est assez compliquée. Hein. Même, faut vraiment être des experts de WebKit pour bien comprendre la finesse des différences.
Hein. Ouais. Alors, tiens, si vous êtes intéressé par l'histoire de WebKit, je vous recommande un podcast qui s'appelle Debug. Et il y a notamment le gars qui a aidé à créer plusieurs navigateurs web et qui a notamment dirigé l'équipe qui a fait WebKit pour Apple. Et ça a été assez intéressant.
Est-ce qu'ils ont...
Et Vincent, tu voulais dire ?
Ouais, je voulais dire pour Blink, là, est-ce qu'ils ont, ils ont annoncé une roadmap ou pas ?
Non, dans l'immédiat, je crois pas qu'il y ait vraiment de détails par rapport à ce qu'ils veulent faire. C'est plus...
C'est là aussi où ils abusent un peu, c'est-à-dire qu'ils ont pas dit, ah, tiens, voilà, en plus, les changements, on a commencé à avancer. C'est genre, bon, on va le faire, et puis Opera, ils viennent avec nous, parce que de toute façon, sinon, ils sont de la baise. Et du coup, c'est pour ça que c'est vu aussi par certains comme vraiment un truc politique, une guéguerre Apple, Google potentiel, etc., etc.
Mais comme c'est quand même un gros effort, je pense, alors même si c'est basé sur ce qu'ils ont fait dans Chromium, avant qu'ils puissent vraiment développer peut-être des nouvelles fonctionnalités, il y a peut-être pas mal de refactoring pour justement enlever tous les codes spécifiques à telle plateforme qui les regardent pas, qui les intéressent pas. Donc peut-être qu'il faut un petit moment avant d'aller plus loin quand même.
Ouais,
mais en fait, on le saura pas vraiment parce que ça va. Tu fais ton fork, la prochaine version de Chrome utilise le fork, et puis petit à petit, tu auras des changements qui vont arriver au fur et à mesure.
Ouais,
bien sûr. Voilà, et en parlant de Google encore, il y a Google Reader qui malheureusement va s'arrêter. Alors moi, je suis très déçu.
Moi aussi.
Parce que pour moi, Google Reader, c'était pas forcément l'interface qui m'intéressait, mais la. Mais le fait que je pouvais synchroniser tous mes lecteurs avec Google Reader, et donc quand je lisais un truc d'un côté, il était lu de tous mes lecteurs, et il n'y a pas vraiment de remplacement à ça.
Enfin, si. Non. Justement, Feedly.
Ah. Oui, mais Feedly, tu peux pas faire pointer Flipboard sur Feedly.
Oui, à l'heure actuelle, mais en fait, justement, si. Alors, donc, Feedly, tu veux parler un peu plus avant de la fin de Google Reader ou je peux parler de Feedly? Donc, Feedly, en fait, non seulement c'est une interface qui est plus sexy maintenant que Google Reader, qui est assez jolie, qui propose différents rendus, style magazine, etc., la Flipboard et autres, mais aussi, derrière, il y a aussi une plateforme qui s'appelle Normandie et qui va répliquer ce que faisait Google Reader, c'est-à-dire niveau back-end, qui est la synchronisation des lus et non-lus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus ce qu'il y a d'autre, je me rappelle, ça c'est l'élément clé de toute façon. Et par exemple, Google Reader aussi permettait d'avoir l'historique. Par exemple, quelqu'un qui vire son flux, toi tu avais encore l'ancien post qui était stocké dans Google Reader. Et je pense que Feedly doit, enfin la plateforme Normandie utilisée par Feedly, doit aussi le faire. Donc quand Google Reader sera complètement éteint, ils basculeront de toute façon sur leur plateforme.
D'accord. Donc, du coup, est-ce que les autres lecteurs clients vont s'appuyer là-dessus ou est-ce qu'ils vont dire non, vous inquiétez pas, on fait un import one time de ce que vous avez dans Google Reader et vous pouvez lire chez nous.
C'est justement ce qui est intéressant dans leur approche, c'est qu'ils ont répliqué, en fait, ils ont plus ou moins reverse engineeré le protocole qui était proposé par le back-end de Google Reader. Donc, c'est, verbe HTTP, la même chose, quoi. Enfin, URL pour URL, etc. Donc, normalement, j'imagine que si ces applications-là pointent vers la nouvelle URL de Feedly, ça devrait fonctionner. Après, il y a eu des annonces. Il y a aussi Dig qui dit « Oui, nous, on va faire un back-end aussi comme Google Reader qui répliquera. Ouais, » On attend de voir. Et puis, Dig, c'est encore vivant. Alors que Feedly, au moins, on sait qu'ils l'ont déjà, leur back-end. Il existe déjà. Donc moi, maintenant, j'utilise plus du tout Google Reader. Je suis passé à Feedly et puis j'en suis très content. Et donc, la synchronisation...
Mais tu utilises Feedly partout pour l'instant, c'est ça ?
Et j'utilise Feedly donc, dans Chrome... dans mon téléphone Android et aussi sur mon iPad et mon iPod Touch. Donc je l'ai mis partout, ouais. Et ça marche très bien avec vu que pour l'instant ça utilise toujours la synchronisation des articles lus de Google Reader, mais à terme ça utilisera celle de Feedly. Donc la transition est c'est très bien passé en tout cas pour moi. Donc Feedly.com, allez-y.
Ok. Après, il y a d'autres liens que tu as dû mettre, je pense, sur RSSJS.
Ouais, alors c'est un petit peu pour continuer là-dessus. Donc déjà,
mais Feedly, c'est payant ou pas ?
Non, c'est gratuit, payant. C'est gratuit. Et mais rappelez-vous, vous êtes le produit. Mais je ne sais pas exactement le...
On ne peut pas dire, tiens, en plus, je vais payer, mettons, 1€, 2€ par mois et je n'aurai pas de problème. Parce que finalement, ces boîtes-là, elles restent petites. Donc à la fin, il faut vivre dans un monde où tu n'as pas de constance. Quoi.
C'est vrai. Et en plus, déjà, Google Reader, ils avaient quand même. Google avait déjà supprimé certaines choses. Par exemple, il y avait la fonctionnalité de partage et de découverte des articles partagés des gens que tu suivais, qui était assez intéressante. Et c'était déjà du social networking avant le social networking à la Google+. Donc, c'est dommage, ils étaient assez pionniers, je dirais, sur certains aspects. Mais voilà, maintenant, c'est à fond Google+. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle, d'un seul coup, Feedly a récupéré 3 millions d'utilisateurs de Google Reader. Hein, quand même.
Ouais, d'un coup. Ils ont fait la bonne...
C'était le bon score, moment.
Bah, en fait, c'était immédiat, quoi. D'ailleurs,
ils étaient prêts aussi.
Ouais, au début, ils ont un peu de mal. Mais tu vois, ce qui est assez rigolo aussi, c'est que, en fait, Feedly et leur plateforme, ça tourne sur Google App Engine, quand même. Donc, ils ont réussi à scaler... Aussi parce que malgré tout, c'est Google derrière.
Ouais.
Donc, on éteint Google Reader, mais c'est quand même grâce au cloud de Google qu'on arrive.
Il va falloir trouver des revenus pour compenser le...
Ouais, je crois qu'il y a un article sur plus ou moins sur le modèle économique de Feedly, mais je ne me rappelle pas des détails.
D'accord.
Et pour faire la transition sur un autre petit sujet qui est lié, donc Google Reader se base sur les flux RSS et Atom. Et de nos jours, tous ces formats-là qui sont à base de XML. Le XML, c'est plus à la mode, c'est has-been, tout ça. Donc, tout le monde fait du JSON. Et donc, il y a monsieur Dave Weiner, donc un des pionniers de RSS, qui propose, ici, on faisait du RSS version JavaScript. Donc, il propose une discussion sur quel doit être le format. Alors, il a fait un mapping quasi direct entre RSS XML et RSS JavaScript. Enfin, c'est JS, un format JSON. Mais enfin, il l'a appelé rssjs.org, alors c'est un peu confusing. Ouais. Donc moi, j'aurais plutôt appelé rssjson que rssjs, mais bref. JSON étant un sous-ensemble de JavaScript, voilà. Donc en tout cas, on va peut-être avoir un nouveau format supporté qui va être le rss.js ou rssjson. Voilà.
D'accord. Sans transition, Guillaume, tu veux nous parler de Firebase ?
Alors, donc il y a de plus en plus... On remarque ça dans les dernières startups créées, les derniers frameworks JavaScript à la mode, côté front-end et tout ça. Et puis, même les frameworks plus, on va dire, web, même dans Vertex, par exemple, on parle de plus en plus de real-time API, une API temps réel, où en fait, y a deux mecs qui sont sur la même page web et on voit les mêmes changements en direct de partout. Donc, c'est pas quelque chose qui est réellement nouveau. On se souvient par exemple de Google Wave et de Operational Transform où on pouvait voir en direct ce que les gens tapaient dans Google Wave. Et d'ailleurs, Operational Transform que Vincent connaît bien aussi dans XWiki. Donc il y a beaucoup de choses autour de cet aspect real-time. Et il y a une nouvelle API dans Google Drive qui permet de faire un petit peu ce que fait quand vous êtes dans Google Docs et que vous éditez un document en direct. Vous pouvez avoir des gens qui tapent aussi, ou dans Spreadsheet aussi, hein. Vous pouvez collaborer en même temps sur la même feuille. Donc vous imaginez, vous êtes en train de discuter sur Skype et en même temps vous pouvez collaborer, mettre à jour une feuille Excel, un document. Et donc l'idée là, c'est d'offrir une API qui permette aux gens de développer, alors au-dessus de Google Drive, donc il faut utiliser l'authentification de Google, stocker ses fichiers dans Google Drive, etc. Ça a certaines contraintes, mais malgré tout, ils proposent l'API qui permet de mettre en œuvre le fait d'avoir de la collaboration real-time sur des documents. Et dans le même esprit, il y a Firebase, donc qui permet de faire, c'est un peu du back-end à ce service Firebase, qu'on peut taper dessus avec iOS, avec des sites web juste en pur JavaScript, sans avoir à gérer de back-end soi-même, qui propose aussi une petite librairie open source, mais qui est quand même basée sur leurs produits derrière, qui est pour l'instant en bêta, donc gratuit, mais un jour vous aurez peut-être quand même à payer, qui est une petite librairie qui fait penser à Etherpad, si vous vous souvenez, qui avait été rachetée par Google avant d'être fermée, même s'il y a des clones qui existent, et qui permet de faire du texte riche en real-time, donc vous pouvez avoir plusieurs personnes qui collaborent en real-time sur le même bout de document, qui met en gras, qui change de fonte, qui change la couleur. Donc ça s'appelle firepad.io et c'est basé sur Firebase. Donc beaucoup de choses qui se passent autour du côté real-time. On essaie de mettre du real-time un petit peu partout.
Mais ça reste très limité en WYSIWYG, hein. Non, ce que tu
oui, là, c'est très limité.
Et c'est bien le gros souci, hein, pour l'avoir fait sur XWiki.
Oui,
c'est facile à faire ce qui a été fait là, et c'est le niveau qu'on a atteint aujourd'hui. Mm. En revanche, faire des transformations sur n'importe quel DOM, de n'importe quelle transformation de DOM plus compliquée, avec toi des tableaux, des listes, ouais, des trucs imbriqués, des macros, etc. Là, c'est une autre paire de manches.
C'est, en effectivement.
Fait, parce que chaque fois que tu rajoutes une nouvelle transformation, il faut que tu la rendes real-time. Il faut que ta nouvelle transformation prenne en compte toutes les combinaisons possibles avec les autres transformations. Mm-hmm. Et donc, du coup, tu arrives vite fait, tu peux implémenter assez facilement, 6-7 transformations, et dès que tu commences à en rajouter une, tu deviens exponentiel en complexité, et ça devient ingérable, en fait. Il n'y a pas de solution à ça pour le moment. Enfin, moi, on n'a pas trouvé, nous, en tout cas.
En tout cas, dans Firebase, en fait, le modèle sous-jacent donc, qui est utilisé par Firepad, c'est vraiment une sorte de document JSON qui synchronise. Donc, rajouter un nœud, changer la valeur d'un attribut d'un objet JSON, rajouter un élément dans un tableau de JSON, etc. C'est leur manière. Et donc, ils ont fait quelque chose au-dessus qui dit, voilà un document, ils ont dû le modéliser en JSON, et ils synchronisent le modèle sous-jacent JSON. Enfin, là, c'est plus une supposition, hein, connaissant comment a été fait Firebase en dessous. Donc, je ne sais pas, du coup, exactement comment ça fonctionne.
Il n'y a pas vraiment le même niveau, mais dans Apple, dans le iCloud
Core Foundation,
il y a des trucs, normalement, en théorie, pour pouvoir synchroniser. Ah oui, mais c'est une personne à... Oui, non. C'est pas un travail collaboratif, c'est toi
c'est
qui pas
collaboratif
dans les,
et c'est autres... synchronisé pour que dans tes différentes devices, dans tes, je sais pas, ton téléphone, ton Mac et ton iPad, pour que tu puisses avoir accès au même document de manière transparente, ouais, quoi.
Mais même ça,
c'est de la synchronisation plutôt.
Ça a pas l'air top côté Apple. Fini ça.
En tout cas, le real time, c'est une tendance.
Ouais.
Vous l'aurez appris chez les casse-codeurs.
Je rêve.
La tendance de l'été.
Entendu. Alors, chez les casse-codeurs.
Les jupes seront courtes, les pantalons très longs.
Sinon, on va passer aux outils. Donc il y a GitHub qui a changé.
Qui rajoute des IP. C'est intéressant, voilà, pour tous ceux qui ont des firewalls, proxy, etc., qui laissent passer certaines IP pour GitHub. Je pense essentiellement à nos chers grands comptes et grosses organisations, de manière à mettre à jour les règles qui vont bien. Donc, ils ont mis un blog post là-dessus pour expliquer les différentes nouvelles IP. Enfin, là, il y en a une qui a été ouverte en plus, je crois, et il y en a un panel. Il y a un panel en plus d'ici peu. Voilà.
Et puis autre chose, ils ont passé les pages. Vous savez, on peut publier des pages, un site web en gros, hein, sur GitHub. C'était votre projet.github.com, qui se trouve être aussi le nom du repo dans lequel vous mettez les pages. Et ça, ils l'ont bougé vers un github.io pour éviter le cross-site script.
Allez, tu vas y arriver.
Le crotte-site.
Bref, des crotte-site. Le fait qu'on puisse réutiliser les informations d'un site web en étant un sous-domaine d'un autre.
Pour éviter ça et aussi les attaques. Pour pas se faire blacklister, parce qu'ils ont le problème que il y a pas mal de sites qui utilisent maintenant ces URL-là en github.com et elles se retrouvent, à cause du contenu des sites en question, ils commencent à se faire référencer comme sites permissifs avec plein de choses pas bien dedans, par les trucs de filtrage à droite à gauche qui existent dans les entreprises. Et donc, pour éviter ça, maintenant, ils vont déplacer tous les sites perso vers un domaine particulier, ce qui fait que si tu veux mettre du porno sur ton github.com, maintenant ça sera github.io, et donc potentiellement tu blacklisteras les github.io mais pas le .com qui est leur business avant tout.
Et pour éviter
le cross-shit,
je vous recommande la lecture de ça et surtout du follow-up qu'ils ont fait dans un blog qui explique un peu plus en détail comment est-ce que les gens pouvaient exploiter le cookie. Ouais. Parce qu'en fait, GitHub a un cookie qui m'aide pour vous identifier, en gros. Et ce que pouvaient faire les gens, c'était pas vraiment récupérer ce cookie pour se faire passer pour vous, mais le surcharger pour essayer de... c'est de vous polluer la vie, quoi. Et donc, ils ont tout un processus intéressant. Ils ont mis en place tout un processus intéressant pour mitiger ce genre de problème. Sachant que la migration vers github.io était la vraie solution un peu plus propre. Cela dit, s'il y a un mec qui met du porn sur github.io et que toi tu mets un autre site web sur les Barbie, tu vas t'as le même problème.
Non mais tu fais un amalgame
là. non. sinon il y a mon collègue et ami Max Anderson qui a migré tous les outils, l'IDE, etc. de JBoss, de SVN vers Git. Et lui, c'est toujours le mec qui a des problèmes hallucinants. D'ailleurs, il a gardé tous les emails du monde dans son truc. Donc, à chaque fois, quand il passe d'un lecteur à l'autre, c'est toujours la zizanie. Et là, c'est pareil. En gros, ils ont 2 millions de lignes de code. Il y a pas mal de choses qui marchait pas bien. Il a pris l'expérience de tout JBoss sur des projets qui étaient finalement un peu plus focalisés. Et comme lui, c'est un amalgame de tous les projets, ça a été assez compliqué. Et il a fait une présentation là-dessus. Donc, si vous avez beaucoup de lignes de code et vous voulez passer de SVN vers Git. C'est
intéressant dans le sens où il explique à la fois un peu les problématiques organisationnelles de la migration, de comment réorganiser le projet, ou les projets, puisque dans son cas c'est des tonnes de mini-projets qu'il y avait dans son subversion, pour les mapper dans un ou n repo Git, et surtout après toute la partie outillage où il explique comment faire les filtrages, comment nettoyer les branches, comment quel processus amener pour que ça se fasse pas en bing bang, etc. Donc sa presse est assez complète et très intéressante, ouais, ce sujet pour migrer de SVN vers Git.
Il y avait même des problèmes du genre la migration était trop
lente. Il a fait un truc en Python,
il passait le SVN là-bas, ensuite fait la migration au local.
Ouais, c'est ça. Il a vraiment fait beaucoup de tests et il a bien bossé là-dessus. Franchement, c'est intéressant.
Crash 1.2 et surtout la version 1.2.1,
spécial Vincent.
Vincent Massol. Alors Vincent, qu'est-ce que c'est Crash?
Crash, c'est un shell pour ton application, qui tourne dans ta JVM. Et l'idée, c'est de pouvoir à distance te connecter sur ta JVM et avoir toutes sortes d'informations dessus. Alors, ça peut être les process, la mémoire, etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu peux rajouter des commandes qui sont liées à ton application. Et donc du coup, ça te fait un shell pour pouvoir interagir, un shell d'administration, on dira, pour pouvoir interagir avec ton appli à distance. Donc en SSH, en Telnet, sur les deux connecteurs, je crois, qui existent.
Oui.
Il y a peut-être d'autres.
Ça, plus après une version web en embeddable.
Ouais, il y a une version web en embeddable, mais qui je trouve est moins intéressante que le.
Ça dépend ce que tu veux en faire, mais effectivement, ça te permet de.
Ça dépend de ton application. Voilà, ça surtout. Et donc, on a eu à Devox, il y a eu un hackathon, Hacker Garden. Et donc, XWiki participait et Crash participait. Et donc, on s'est dit, tiens, on va faire une intégration Crash dans XWiki. Et donc, avec Frédéric Bouquet de Bonita, on a créé cette intégration. Et bien sûr, en utilisant l'API de Crash, on s'est aperçu qu'il y avait quelques limitations, etc. Et Julien a vite corrigé et a réalisé une 1.2.0 puis une 1.2.1. Voilà, c'est juste des trucs de la technique d'intégration et de threading, de pouvoir te plugger sur les threads, en fait, pour pouvoir faire l'initialisation de ton contexte, à ton contexte applicatif. Donc c'est sympa, c'est assez sympa, et puis ça vient avec un certain nombre de commandes déjà toutes faites.
Pour toute la JVM.
Directement, directement, t'as pas mal de commandes qui existent. Tu peux accéder à tous tes mbins, JMX, etc. aussi.
Ouais, c'est ça. Par défaut, t'as accès à les informations JVM, tout ce qui est par défaut côté JMX, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est extensible, comme tu disais, via des commandes ou via même des plugins pour l'authentification, etc. Et nous, ça, c'était au début, le besoin, c'était pour ExoPlatform, qu'on avait le besoin pour accéder. On a d'ailleurs créé un connecteur, etc., qui vont bien, pour le JCR. Et donc, ça nous permettait directement de faire des opérations sur le JCR, de parcourir le JCR. Il y a aussi un connecteur pour base de données, si ma mémoire bonne, enfin oui, c'est même sûr, pour pouvoir justement accéder directement aux infos sur la base qu'on peut être connecté au niveau de la JVM. Donc ouais, donc ça c'est intéressant, ouais, pour permettre voilà d'avoir un accès, on va dire, d'administration sur une application qui tourne, qui est en prod par exemple, et d'avoir son petit accès SSH et de pouvoir, bah voilà.
Attends, ta backdoor.
Ouais, c'est un peu une backdoor, on voilà. peut le voir comme ça, hein. ça peut remplacer l'accès JMX ou compléter l'accès JMX, mais d'un autre côté, l'avantage, c'est que c'est plus parlant, on va dire, pour un sysadmin, de faire des commandes dans un shell, plutôt que de faire ça via un client JMX ou autre, de faire des opérations dessus. Donc, mais bon, ça sécurise, etc. Donc, le backdoor, voilà, il est limité.
Sûr, il faut ouvrir les ports. Il faut que les ports soient ouverts.
Il y a une authentification, etc. Soit avec clé SSH, soit avec autant, enfin, avec login password. Enfin, bref, voilà. Mais voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que ça permet d'offrir sur la JVM une administration qui sait parler à un ops, digne de ce nom, puisque voilà, on a un shell plutôt classique où on peut faire des opérations. Il y a même des choses rigolotes, hein, comme le hashtop qu'il a à peu près recodé, Julien, qui permet, comme sur une machine Linux, d'avoir une visu globale de la JVM avec l'état de la mémoire, les threads en cours, leur occupation CPU, enfin ce genre de choses. Donc voilà, donc ça permet de faire des choses assez sympas. Et il y a une version en ligne qui est sur try.crashup.org, où vous pouvez la tester en ligne sur une version web, justement, pour voilà, vous dire à quoi ça ressemble, etc.
C'était la deuxième section sponsor.
C'était la deuxième section sponsor.
J'ai essayé de caser
par
cool.
Crash.
Merci, voilà. Julien. Bon, attends, je vais dire à Julia qui nous doit qui envoie son chèque.
Non, juste pour finir, ce qui était sympa dans la Hacker Garden, c'est qu'on a, avec l'intégration dans XWiki, on a fait qu'on peut rajouter des commandes extrêmement facilement dans des pages wiki. C'est-à-dire que tu as une page wiki, t'édites ta page, et tu mets ton script, que ce soit Groovy, Velocity ou autre. Et directement, ça, quand tu es dans le shell, tu peux exécuter cette commande qui correspond à ce qui se passe dans cette page. Donc, du coup, tu peux avoir accès à tout directement avec des commandes que tu crées facilement.
Ensuite, on va parler de l'informatique en général avec l'initiative de Xavier Niel et d'anciens de l'Epitech, je crois, c'est ça? L'ouverture de l'école 42. Donc, l'école 42, c'est une école où il n'y a pas besoin de diplôme particulier, qui est gratuite, ouverte à, je sais plus, 100
1000.
C'est gros.
Chaque année, voilà. Et en gros, ça démarre. Il y a une première étape qui s'appelle la piscine, où en gros, il y a tout le monde vient. Ils gardent que les meilleurs.
Comme la télé-réalité.
Voilà. Et ces meilleurs-là, ouais, mais pour le code.
Et que Loana qui reste. Pardon.
C'est meilleur.
Non, il y a
et ces meilleurs-là, après, ont une formation pendant 3 ans de cette école. Donc, c'est une initiative intéressante, en fait, puisqu'elle est, donc, elle n'est pas reconnue d'État. C'est pas une formation d'ingénieur ou de ce que vous voulez. Cela dit, elle est focalisée très pragmatique en disant, voilà, il y a des gens qui rentrent pas dans le système et on veut les récupérer. C'est des gens qui sont très bons en informatique, potentiellement, et on veut les former pour qu'ils soient utiles à la société française de demain.
Et dans les principes aussi, c'est l'approche où on apprend par soi-même beaucoup. Et donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de cours magistraux a priori. Et deuxième aspect aussi, c'est beaucoup de projets à faire, plein de petits projets et un gros projet à faire. Sur un, il y en a un qui est plus long, je crois. Donc vraiment, les mains dans le cambouis tout le temps.
Mais les, tous les Epita, Epitech, tout ça, c'est un peu le même modèle. Hein.
Ouais.
Alors, ils ont publié les sujets qu'ils allaient couvrir,
le programme.
Le programme au cours de ces années-là, et ça a déclenché une lettre ouverte d'Octo à Xavier Niel, donc sur là-dessus, vous voulez peut-être en parler, les gars.
Bah Octo, donc en fait, ils ont un petit peu peur sur le fait que. Et d'ailleurs, c'était un petit truc moi qui m'avait, enfin pas choqué, mais étonné quand j'avais lu le programme, c'est par exemple. Dans le programme, à aucun moment tu vois le mot test. Donc tu dis, putain, ils vont nous créer des cowboys, tu vois, des cowboys qui codent la nuit et pas forcément des software craftsman machin chose. J'ai toujours du mal à le dire, je sais pas pourquoi. je sais pas comment le dire, des artisans du code. Et c'est vrai qu'ils ont un petit peu peur, enfin dans cette lettre ouverte dont on a mis le lien dans les show notes, ouais, qui est sur le blog d'Octo.
Il n'y a pas de test, il y a genre une petite mention de méthodo agile, mais juste.
Voilà, et c'est juste en passant en dernière année. Alors que c'est vrai que si on veut vraiment faire quelque chose de plus original, peut-être qu'on peut au contraire faire ça en premier et de faire en sorte que les gens travaillent plus ensemble, que
ils vont reconnaître la méthodo à l'arrache.
Voilà, c'est ça le problème, c'est à l'arrache, c'est cowboy, c'est sans test. Pour délivrer à temps le projet, parce qu'il y a 50 projets en même temps, ou à la suite, et du coup, il faut être dans les temps.
Peut-être donc, que c'est un petit peu, travaille comme ça.
Ben, j'ai peur que ce soit un petit peu cette mentalité-là. Donc, au lieu de, vaut mieux prendre son temps et faire quelque chose de bien, et puis d'arriver à mesurer la qualité de ce qu'on a produit et d'apprendre en même temps, plutôt que de créer des cow-boys, quoi. C'est un petit peu la crainte qui transparaît. D'accord. Quand on regarde le programme tel qu'il a été présenté, en tout cas.
D'accord. Donc, en tout cas, bonne chance à eux. De toute façon, c'est une initiative.
Et bonne initiative.
Privée,
ouais.
Hein. Donc, voilà, on peut toujours s'en réjouir.
Gratuite.
Gratuite.
Ouvert à tous.
Donc, bon courage à eux. Et puis, ouais, qu'il y ait d'autres initiatives comme ça en France, pas forcément encadrées par les lois et les règles. Voilà. Sinon, au niveau outils de l'épisode, ça va être rapide. Moi, j'utilise le two-factor authentication, donc avec les tokens qu'il faut rajouter après le mot de passe. Et j'utilise Google Authenticator pour ça, qui marche très bien, qui, je suis sûr, est très bien codé, etc. Sauf que l'interface utilisateur, c'est une catastrophe. Et notamment, il y a un certain nombre de bugs et j'ai trouvé comment, pas résoudre, mais contourner ces bugs et en les... pour pouvoir réordonner vos listes de tokens, parce que moi j'en ai pas mal du coup entre Google, j'ai plusieurs comptes Google, j'ai mon compte Red Hat, mon compte Dropbox, etc., Amazon. Donc, allez lire mon blog là-dessus si vous l'utilisez, ça va peut-être vous aider. Et pareil, j'ai réussi à mettre à créer la notion d'alias dans le mail iOS. En fait, avant, je créais des comptes artificiels que j'utilisais pas, mais c'était vraiment galère. Et donc là, maintenant, je peux créer plusieurs alias, et donc je peux répondre, par exemple, de emmanuel@lescascodeurs.com, même si j'ai pas de compte physique emmanuel@lescascodeurs.com, et que derrière, c'est mon Google Mail, par exemple. Donc ça, c'est bien utile. Si vous avez ce besoin-là, allez encore lire mon blog. Grave.
On attendait
alors
tous la chute.
Pourquoi rigole-t-on ?
Il y a Arnaud qui dit, en fait, Emmanuel, il veut faire gonfler les stats de son blog perso. En même temps, si vous mettiez des outils de l'épisode, les gars...
Et toc.
Il nous reste pas beaucoup de temps, donc on va parler des conférences et des jugs, mais juste avant ça, je sais pas si vous avez suivi un petit peu le scandale PyCon. Alors je vais essayer de vous résumer, je vais sûrement faire plein d'erreurs, donc excusez-moi là-dessus, mais par contre c'est un sujet, ça en est devenu ridicule, mais c'est un sujet important. C'est parti à la base d'une, donc il y avait la keynote de PyCon, et puis il y avait une fille qui était évangéliste chez GridSend, si je me souviens bien.
SendGrid,
pardon, qui entend les gens derrière commencer à faire apparemment des blagues graveleuses. Alors qu'il y a quand même un code de conduite sur dans la conférence PyCon, spécialement aux US, donc il faut être gentil, pas faire de blagues, bah, etc. Donc bref, ça l'énerve. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle, au lieu de leur dire taisez-vous, en gros, elle prend une photo et elle fait un tweet du genre voilà les boulets misogynes qui sont en train de parler derrière moi. Elle va aussi voir l'équipe PyCon qui du coup règle le problème avec les mecs qui sont dit ouais désolé bon, on n'aurait pas dû faire ça ben, voilà. Juste après ça, la boîte d'un des gars derrière qui voit ça vire le mec en disant que il a mal représenté la société. Il y a souvent une clause de bonne représentation de la société. Donc le gars se fait virer pour alors. Soi-disant avoir dit des blagues graveleuses. Apparemment, il y a eu quand même une mécompréhension entre ce qu'ils ont dit et ce qu'elle a fait au moins en partie. Donc le gars se fait virer, il répond, enfin il fait un blog en disant bah je suis déjà désolé d'avoir fait ça, etc. J'ai été viré, j'ai 3 enfants, donc là c'est pas super cool. La fille lui répond en disant bah ouais désolé, je pensais pas que ça irait jusqu'à ce niveau-là. Là-dessus, la twittosphère s'est juste énervée, mais de manière hallucinante contre cette femme, cette personne, avec des insultes assez violentes. Alors, il se trouve qu'en plus, elle est afro-américaine, donc c'était juste la totale. Enfin, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. Il y a eu des demandes à grid send, en gros virez-la ou sinon on vous fait des attaques de DDoS, etc., etc., qui, si je me souviens bien, ont eu lieu. Bref, grid send vire la fille.
Et donc, c'est pire que les feux de la mort. Hein.
Ah ouais. Donc au final, tout le monde est viré à cause d'une escalade juste improbable. Là-dessus. Et c'est arrivé juste avant Devox France et UK. Donc Devox UK a embrasser le code of conduct de PyCon. En France, nous, ça nous a paru juste comme un côté ovni. Donc,
on aime bien parler pipi caca et voilà. Zizi et pompon.
Donc, voilà. Mais du coup, ça montre, un, le côté, la sensibilité au sexisme, etc., où c'est vrai qu'on est qu'on appelle ça? Une industrie qui est massivement masculine et que probablement qu'il y a des abus qu'on devrait pas faire, que poster en public un truc ça a des conséquences et que quand vous êtes embauché par une boîte américaine ça a aussi des conséquences.
Surtout ça, ouais.
Donc c'est comment faire n'importe quoi à tous les niveaux, quoi. C'est juste hallucinant.
Ouais.
Je vous recommande d'aller lire le blog qui essaie de résumer ça. Il y a même plusieurs blogs d'ailleurs là-dessus. C'était intéressant.
C'est triste.
Et ouais, triste malheureusement. Voilà, sinon
Jug et conférences.
Les conférences, il y a DevOps Day le 18 et le 19 avril avec Arnaud pas aux commandes mais avec les mains dedans.
Les mains dedans, oui. C'est la semaine prochaine et effectivement 2 jours de DevOps, donc sur toutes les pratiques, sur avec la matinée. Les matinées de manière générale, c'est les conférences et l'après-midi, ça va être plutôt des non, pas encore, ça c'est le soir, surtout le jeudi soir où on va bien s'amuser, mais je peux pas le dire plus, c'est encore top secret pour l'instant, mais il y a une bonne petite soirée qui se prépare et l'après-midi ce sont plus des workshops, plus ce genre de sessions improvisées où les gens discutent, donc c'est intéressant sur 2 jours, ça dure jeudi vendredi la semaine prochaine, voilà.
C'est parce que ça sonnait un peu comme DevOps, ça se ressemble, c'est pour ça que t'as fait celle-là.
En fait, c'est ça, je me suis trompé, on m'a dit, tu veux venir à DevOps, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, et après je me suis rendu compte que c'était pas le même, je me suis fait avoir, et effectivement, je me suis retrouvé en bargain dedans. C'est ça, t'as tout compris, fallait pas le dire.
Sinon, il y a Mixit ou Mixité, le 25-26 avril à Lyon.
Yes.
Moi, j'y serai pas, mais il y en a, ok, super. Il y a des gens qui vont à GrailConf aussi, pareil, du 22 au 24 mai. C'est où?
Ben ouais, c'est à Copenhague. Au Danemark, avec la petite sirène.
Avec la petite sirène.
Donc 22-24 mai, tout ce qui est autour de Groovy, Grails, Gradle, etc.
Voilà.
Tout l'environnement Groovy.
Il y a une conf sur Eclipse, EclipseCon, qui se passe en France à Toulouse le 5 et le 6 juin. Donc, si vous tournez autour d'Eclipse, ça vaut peut-être le coup d'aller voir là-bas pour une fois que c'est chez nous.
Mais depuis le temps que je dis que Eclipse est con comme IDE, j'ai rien dit. C'est un peu facile ça.
Bip.
Sinon, il y a CloudConf de Paris le 7 et le 8 juin. Red Hat Summit le 11, du 11 au 14 juin. Donc moi, je serai là-bas probablement. Ensuite, BrightsCamp à Rennes le 13 et le 14 juin. Donc je crois que le
Call Center vient de finir. Alors.
Ouais, voilà. Du coup, je serai pas au BrightsCamp. Mais je sais pas, peut-être que l'un d'entre vous y va.
Moi, j'ai soumis au BrightsCamp. Je sais pas si je suis accepté ou pas. On va voir.
D'accord. Donc tu feras un podcast tout seul.
Mais ouais. Mais mon collègue Cédric qui représentera Groovy sur un sujet Groovy de toute façon. Donc il y aura quand même du Groovy à BrightsCamp, même D'accord. si je sais pas s'ils vont me prendre. Moi. On verra.
Et il y a DroidCon, une conférence autour de d'Android le 17 et le 18 juin 2013. Donc en juin, si vous voulez. Allez à des confs, il y a moyen.
Il y a moyen, ouais.
Et dernier, but not least, il y a CodeCamp à Iași, en Roumanie, si jamais vous passez par là. D'accord. Et j'y serai, j'ai mis le lien. C'est une conférence D'accord. à 400 développeurs, quand même.
Ah, pas mal.
Et je présenterai notamment XWiki et différentes choses. Et, là, et des best practices de qualité sur les projets Java, ce que j'ai présenté à Devox, en fait.
Cool.
Nice. Eh ben, bon, c'est un épisode long, on est en retard, il va falloir que je coupe 5 minutes, c'est la loose. Merci beaucoup à tous de nous suivre, et puis amusez-vous bien. On va essayer de faire une interview. Je vais essayer, je crois, un truc du genre Neo4j pour la prochaine, à voir. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et à la prochaine.
Ciao, okay. Ciao.
Bisous, salut. À bientôt.
À bientôt.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthem.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.